Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir à Dunia Mirales, auteure de Michel, une femme d'un autre genre, et à la postface, c'est une signature et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle d'Antoine Roulin. Voilà. À partir de maintenant, je vais vous appeler tous les deux par vos prénoms. Antoine Roulin, vous êtes psychologue FSP et membre du groupe de supervision des psychologues, psychiatres, endocrinologues de la Fondation Agnodis, c'est juste, hein ? Voilà, pour l'intégration des personnes trans. Et vous, Dunia, on vous a accueilli à plusieurs reprises dans la ligne de cœur comme auteur, comme écrivain. Vous nous racontez l'histoire de Michel, qui est maçon, qui travaille dans la rue, qui est dans un club de tir, qui est un homme parmi les autres, mais dès qu'il est seul, il enfile des vêtements féminins et il devient Michelle, une femme qui, pour supporter son incongruence du genre, réinvente son histoire. Je voudrais vous relire à tous les deux ce message qu'on a reçu, parce que je pense que ça fera écho à votre réflexion. Ce message qu'on a reçu et qui est signé Mireille, ou plutôt Marco. Je suis né garçon, mais le rêve de mes parents était que je sois fille, et je le vis tous les jours. Une dualité qui est un défi. Pas de place pour mon côté féminin dominant qui me fait peur. Le défi serait de l'accepter. Mireille, ou plutôt Marco. Racontez-nous, Dunia, pourquoi un jour vous avez décidé d'écrire l'histoire de Michel?
C'est parce que je connais plusieurs personnes qui souffrent de leur incongruence du genre, notamment une très proche amie, et pour qui c'est très difficile, puisque dans son travail, qui est un travail très masculin, elle est un garçon, et alors qu'en fait, elle se sent profondément femme. Mais elle ne peut pas le révéler dans le cadre de ses diverses activités.
Michel, dans votre livre, dit « Comment dire ça à une mère, à un père, papa, maman, les 90 kilos de muscles que vous voyez là, votre fils dont vous êtes si fier, cette bête de chantier qui a gagné 32 concours de tir, qui a marché au pas à l'armée et qui transporte des sacs de ciment sur le dos, eh bien, c'est une fille. » Est-ce que ça, Antoine, c'est pas justement là que se situe une partie de la souffrance? C'est dans la difficulté de dire à ses géniteurs, à ses parents?
Alors certainement, enfin, aux parents, dire aux amis, à la société. Je crois que la difficulté est liée effectivement aux normes très strictes, à l'intolérance générale. Alors il y a des nuances certainement, mais c'est quand même ça le grand problème. Et effectivement, selon le milieu dans lequel on travaille, la difficulté est d'autant plus grande, notamment dans ces milieux très masculins, entre guillemets, même si je suis pour que chacune puisse faire ce qui lui plaît, mais les domaines liés à la nature, à la construction, à la mécanique restent quand même majoritairement masculins, et puis on veut des hommes, des vrais.
Oui, c'est ça, avec l'accent, Antoine, hein, en plus. Et dans votre livre, Michel dit aussi « Je devais avoir 13 ans. Cette année-là, j'ai commencé à m'intéresser aux filles, mais pas comme les autres, pas comme les autres garçons, pour les embrasser, etc. Non, moi, je voulais leur sein, leur hanche, leur taille fine. » Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi, Antoine, à laquelle vous êtes confronté, c'est-à-dire très jeune, il y a cette difficulté de prendre conscience et d'accepter qu'on est différent?
Alors, je dirais qu'il y a des cas qui sont très différents, mais on a effectivement un certain nombre de personnes qui se rendent compte très très rapidement de leur incongruence. Nous avons eu un symposium encore le 25 novembre, et il y avait le témoignage d'un père de famille aussi dont l'enfant s'est rendu compte à 3-4 ans de sa mauvaise attribution ou de l'erreur de la cigogne, aurait dit Dunia, comme dans son bouquin, enfin Michel, disons, dans le bouquin de Dunia. Mm-hmm. Donc effectivement, ça peut être très très précoce, mais il existe aussi des gens qui, alors pour différentes raisons, n'ont pas eu accès peut-être directement à l'information ou n'ont pas compris ce qui se passait, des personnes plus âgées notamment, donc c'est un phénomène dont on parlait peu, ou qui était très psychiatrisé, donc c'est vraiment difficile aussi peut-être de s'identifier, et qui ont fait des découvertes plus tardives, qui ont essayé de mener une vie hétéronormés, traditionnels, qui ont même eu des enfants et qui tout à coup, pour qui la vie devient insupportable et qui se révèlent. Donc ça peut être aussi à 30, 40 ans, 50 ans, on voit un petit peu de tout.
Mmh. Dounia, quand vous nous parlez de Michel, vous nous parlez aussi de cette Michel qui n'ose pas sur son chantier s'afficher telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire s'habiller en femme. C'est le Michel sur le chantier, et à un moment donné, elle dit ou il dit, si mes collègues me surprenaient habillée avec les plus beaux atours de Michel, ils croiraient que je suis pédée. Je ne suis pas pédée, je suis une femme. Donc il y a aussi le regard de l'autre qui est très puissant, qui est très lourd.
Oui, évidemment, mais c'est toujours le regard de l'autre. Moi, avec cette amie dont je vous ai parlé, mmh. il m'est arrivé d'aller au restaurant avec elle et d'avoir 5 personnes différentes pour venir nous servir. Et c'est simplement parce qu'ils venaient la regarder.
Oui, comme une bête curieuse, quoi.
Exactement. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est dérangeant. En plus, comme disait Antoine tout à l'heure, dans les milieux masculins, où il se raconte quand même souvent des blagues graveleuses au sujet des femmes, au sujet des homosexuels, c'est difficile de s'affirmer. Et précisément, dans ce cas, par exemple, si Michel a quelques griefs envers les homosexuels, c'est parce que elle a peur d'être confondue avec un homosexuel, alors qu'en fait, elle se sent profondément femme. Elle est une femme enfermée dans un corps d'homme. Mmh. Mais c'est un avis qui n'appartient qu'à Michel.
Bien sûr. La question essentielle, et vous l'évoquez dans votre postface, Antoine Roulin, la question essentielle est posée d'emblée. Vivre en ne se sentant pas soi, est-ce vivre ? Est-ce que vous y répondez à cette question ?
Oh,
vous, en tant que spécialiste.
Oui, d'avoir des réponses, de détenir la vérité. Mais, mm-hmm. mais comme je l'ai dit, je crois que c'est quand même bien souvent plus survivre que vivre.
Oui.
Même si on peut, même dans notre pays favorisé, même si, etc., quand même, c'est... Je crois que le combat est de tout instant. Et mmh. c'est davantage une survie parce qu'il y a toujours ce décalage, cette incongruence. Alors, soit on joue le jeu de la société, mais on est mal avec soi, ou on est bien avec soi, on se respecte, et puis c'est la société qui mmh. maltraite. Enfin, c'est quasi insoluble. Alors, même si on accepte en tant que trans de se montrer tel qu'on est, même si il y a une réassignation, hein, donc un changement de sexe, une nouvelle identité ou autre, en tant que transsexuel, les trans restent des genres peut-être aussi à part et dans la marge, mais cette marge est quand même bien préférable au placard, si je peux dire.
Alors, il y a un vrai défi, et ça, je m'adresse à vous, Dounia, comme auteur de ce livre paru à l'âge d'homme, dans la collection Poche Suisse, et à vous aussi, Antoine, auteur de cette postface. Il y a un vrai défi pour le trans, mais quel est-il, ce défi, aujourd'hui, pour vous, selon vous ?
Alors... Le défi, c'est surtout de d'oser assumer le regard des autres. Et puis, je ne sais pas si le défi, il est pour le trans ou pour la société, puisqu'il s'agit en fait d'intégrer les trans dans la société. Parce que parfois, c'est quand même difficile de garder un travail. On parle souvent beaucoup des femmes transsexuelles qui sont dans la prostitution, mais c'est souvent parce qu'elles ont perdu leur travail auparavant, un travail qui pouvait être un travail d'électricien ou peut-être même de journaliste.
Il y a des chiffres que vous citez, Antoine. 20% le taux de chômage pour cette population, contre 4,5 en moyenne, hein, en 2014.
Mmh. Oui, en effet. Alors, c'est clair que le défi se situe, je dirais, bon, pour une question de survie purement matérielle, peut-être, mais qui est quand même très réaliste, au niveau professionnel. Transition ou pas transition, révélation ou pas, on hésite quand même souvent à engager une personne ambiguë. On l'entend couramment. Ou si on l'engage, elle risque d'être le bouc émissaire des collègues, des chefs, et on lui confiera moins volontiers des responsabilités. Donc c'est aussi accepter ça d'un côté, mais aussi travailler au niveau, bien sûr, de l'entourage professionnel, mais aussi au niveau de la société, de, je dirais, faire que les gens renoncent à leur peur de la différence. Enfin, ils l'ont à d'autres niveaux, pas seulement avec les trans. Hein.
Bien sûr.
D'avoir une autre couleur, une autre religion, etc. Mais leur montrer que finalement, ces gens ne sont pas des malades, ce ne sont pas des pervers.
C'est
les deux pour certaines personnes. Je pense bien que je ne les ferai pas changer d'avis comme ça, mais... Mais vraiment que c'est des gens en souffrance avant tout, des êtres humains, et que ça n'a rien de contagieux, qu'ils vont pas avoir des comportements déréglés au plan sexuel ou je ne sais, parce qu'il y a toujours tellement de fantasmes là autour. Donc si on arrive effectivement à démystifier un petit peu ce genre de situation, bah, peut-être que ça... On va regarder un peu moins de travers les trans, déjà ça de gagner.
Vous pensez que le défi, ça pourrait être l'intégration des personnes dans une forme de normalité, de majorité ou dans la société en général? Une Alors, meilleure intégration?
Incontestablement, une meilleure intégration. Moi, j'irais encore un peu plus loin au risque de faire hurler une partie de votre audience, mais je crois que la solution... elle pourrait être dans ces nouvelles approches qui préconisent une liberté de choix du genre pour tout le monde, non pas seulement pour les trans ou les homosexuels ou je ne sais, mais pour tout le monde. Il y a pas du tout féminin ou du tout masculin. Alors peut-être, ou en tout cas théoriquement, on peut imaginer que ça existe, mais il y a toutes les nuances possibles. Entre ces deux extrêmes, ces deux pôles, et puis toutes les variations possibles au cours d'une vie, ou selon les situations. Et là, je crois que ça pourrait être une solution où tout le monde pourrait y trouver son compte, même les gens bien pensants, très hétéronormés en apparence.
Alors, on reçoit un certain nombre de messages. Il y en a un certain nombre que je pourrais résumer ainsi, qui vous remercie d'aborder le sujet, hein, vous, Antoine, et vous aussi, Dounia, des gens qui ont lu votre livre et qui ont été très touchés, et de le faire sous forme de défi, hein, et de définir quel est le défi. Il y a, par exemple, quelqu'un, Louis, qui dit « Travesti, est-ce que c'est la même chose que transsexuel ?» Non, c'est pas ça. Hein.
Non, non.
Vous pouvez juste nous dire, nous donner la différence.
Oui, alors, le transvestisme, c'est vraiment mettre des vêtements de femme pour un homme, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que cet homme-là se sent fondamentalement femme. Ça peut être un jeu, ça peut être une expérience un petit peu de l'autre genre. Et là, justement, on est le long de cet espèce de continuum, même si c'est un terme qui est aussi discuté, mais où il y a des expériences là entre, mais on n'est pas dans le transgenreisme.
Oui. Alors, question, ou plutôt affirmation, l'auteur d'un SMS dit, il faut aussi comprendre qu'une telle démarche, comme se travestir en public, peut aussi choquer. C'est une façon de rejeter la nature et les attributs qu'elle nous a donnés. Oui à une certaine tolérance, non au diktat de la morale, personne n'a le monopole de la morale. Vous avez l'impression que c'est vrai, ça, c'est une façon de rejeter la nature et les attributs qu'elle nous a donnés, Dounia ?
Mais je crois que l'être humain ne regarde pas bien la nature, parce que il n'y a pas, par exemple, si on regarde un arbre, il n'y a pas de feuilles identiques. Elles sont toutes différentes les unes des autres, même si elles semblent semblables. Donc, la nature, parfois aussi, il y a des personnes qui naissent avec un cœur à droite. D'autres qui peuvent naître avec deux vertèbres en plus, par exemple. Donc la nature, parfois aussi, n'est pas toujours parfaite. Oui. Et il se peut aussi que la nature fasse naître une femme dans un corps d'homme et vice-versa.
Est-ce que le défi, Antoine, ce ne serait pas pour ceux qui pensent comme l'auteur de notre SMS, pour lequel ou laquelle nous avons le plus grand des respects, évidemment, qui n'exprime pas, elle ou lui, la peur, mais ce serait de sortir, pour ceux qui ont peur de tout ça, le défi, ce serait de sortir de cette peur. Peur de l'autre parce qu'il est différent ou qu'il affirme sa différence.
Oui, certainement. Sortir de la peur, mais je dirais que, à mon avis, une des meilleures façons, c'est d'aller à la découverte. Mmh. On n'est pas obligé non plus d'adhérer ou d'encenser ou d'humilité pour ou je ne sais quoi, mais simplement s'informer, regarder et apprivoiser. Je pense que c'est une bonne façon de sortir de la peur et de voir justement les trans comme des êtres humains en souffrance avant toute chose. Oui. Et pas comme des espèces de monstres qui vont venir pervertir ce monde si pur et parfait.
Dounia, il y a certaines souffrances qu'on accepte mieux que d'autres chez certaines et certains.
Effectivement, on est peut-être plus sensible à la souffrance d'une personne qui a un cancer plutôt que à la souffrance d'un trans, parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas compris. Mmh. On croit toujours que c'est un caprice ou que c'est un choix, alors que ce n'est pas un choix. C'est la vie qui a fait que les personnes transgenres sont transgenres. Et puis d'ailleurs, est-ce que on n'est pas par moment chacun d'entre nous un peu d'un côté ou de l'autre? Ça dépend aussi parfois.
Dounia, ce livre, pour vous, ça a été un défi?
Oui, c'était. Mais pour moi, le défi, c'était de m'approcher le plus possible d'une certaine réalité, en l'occurrence celle d'une transgenre quinquagénaire qui est maçon. Et de ne pas trahir la communauté trans, parce que ce sont des personnes qui souvent sont déjà en souffrance. Donc, de ne pas rajouter de la souffrance à de la souffrance.
Et pour vous, Antoine, le combat que vous menez à votre façon, vous êtes, on le rappelle, endocrinologue de la Fondation
A. Pas du tout. Non, je ne suis pas endocrinologue.
Ah d'accord, pardon.
Je suis psychologue.
Psychologue, d'accord. De la Fondation A, on dit comment ça?
Agnodis. Je fais partie du groupe de supervision. Donc,
d'accord, oui.
On se rencontre pour parler des cas qu'on voit. Personnellement, j'ai une toute petite pratique privée, donc je vois très peu de monde, mais voilà, je connais un peu le sujet quand même.
Mais pour vous, de vous engager dans ce domaine, ça a été aussi un défi par rapport à peut-être des idées que vous aviez préconçues ou pas par rapport à tout ça?
Pas du tout, non. Non. Je dirais, bon, on est venu aussi un petit peu me chercher pour représenter l'arc jurassien. C'est du côté de Lausanne que ça se passe, donc il y a des gens plutôt de la rivière alémanique. Donc voilà, sachant que j'avais une sensibilité aussi par rapport à ce genre de problématique, entre autres, et que j'étais dans cette région. Donc, c'est des raisons qui font qu'on est venu me chercher. Mais non, pour moi, je dirais que je revendique le droit à la différence et je me réjouis des différences.
Philippe réagit, il dit incroyablement pathétique le jugement humain. On condamne une personne sur son physique alors que l'on peut faire confiance à quelqu'un de malsain simplement parce qu'il présente bien. C'est assez juste.
En effet, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les sujets des abus sexuels, de la maltraitance. Je ne peux qu'abonder en son sens.
Merci à tous les deux. Je rappelle donc votre livre, Dounia Mirales, Michel, ou Michel avec un L ou avec deux L, une femme d'un autre genre, paru aux éditions de l'Âge d'Homme. Et merci à vous, Antoine Roulin, psychologue. Voilà. Merci infiniment à tous les deux.
Merci aussi de votre invitation.
À bientôt.